Et voilà, c'est parti pour la 102e émission de Radiocratie avec un petit nouveau aujourd'hui. Et ouais. Et je crois que c'est, et Boris, il me semble que c'est la première fois depuis le début de l'année où il y a plus de garçons que de filles.
Oui, je crois. Oui.
Je crois aussi, ouais. Bon, et ben, on envoie le générique. C'est parti. Ah bah voilà.
Faut double cliquer.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Primitive.
C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer.
Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est le lundi 22 janvier 2018. Il est 18h et on est en direct depuis le studio. Vous écoutez Radiocratie comme tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Primitive. Fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout ailleurs. Aujourd'hui, l'émission numéro 102 déjà de Radiocratie. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission et nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Nos podcasts sont également disponibles sur notre chaîne Dailymotion qui s'appelle également Radiocratie. Et le mail c'est radiocratie@gmail.com. Le 22 janvier, c'est en 1963 la signature du traité de l'Elysée, de l'amitié franco-allemande entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer. En 70, c'est l'entrée à l'Académie française de Eugène Ionesco. Le 22 janvier 79, c'est la première fois que le film Holocaust est montré en Allemagne. Et c'est aussi en 2001 le début du désormais célèbre procès Elf et les frégates de Taïwan, avec comme principaux accusés Roland Dumas et Christine de Béjancourt. Au rayon des naissances, il y a eu celle de 22 janvier 1561 de l'écrivain anglais Francis Bacon, en 1877 du personnage fictif, fils d'Agatha Christie, Hercule Poirot. Il y a aussi eu le 22 janvier 1882 la naissance de Louis Pergaud, auteur de La Guerre des Boutons. Il y a aussi eu en 1940 la naissance de l'acteur anglais John Hurt et de l'actrice Isabelle Nanty en 1962. Pour les décès du 22 janvier, il n'y a pas grand chose, comme celle en 1888 du dramaturge Eugène Labiche et de Pierre Tétinger en 1965. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions chroniques, etc. Et une semaine sur deux de la musique. Et aujourd'hui, une émission pendant laquelle on va parler d'argent. Mais d'argent à caractère social, puisqu'on va d'abord parler de ces Français qui ne demandent pas d'aide sociale, pourquoi, comment, et puis des aides pour les demandeurs d'asile aussi. Et il y aura évidemment notre traditionnel blind test en fin d'émission. Et ce soir, ils vont accompagner vos oreilles jusqu'à 19h, ils viennent de s'installer autour de la table, voici mes oiseaux. Tout d'abord, adepte du baise-main lorsqu'il s'agit de mettre la tête dans le décolleté, insensible à la météo, puisque pour lui c'est toujours la saison chaude. Voici en régie notre Boris National.
Alors, merci pour la réputation, c'est sympa.
Reine incontestable et incontestée du blind test cette saison, championne en titre, toujours un peu folle, qui est capable de se demander à quoi servent les requins marteaux puisqu'il n'y a pas de poisson clou. Voici Zoé.
Merci, pas totalement d'accord, mais ça passe.
Vous aimez pas ma présentation, de toute façon. Mis à part l'émission sur Star Wars en décembre, c'est sa première fois parmi nous, donc sa deuxième. Il aime les toiles cirées, les tire-bouchons en cèpe de vigne, mais il n'est pas veuf pour autant. C'est pour déconner que je te présente comme ça, évidemment. Je suis ravi d'accueillir Alexis.
Je me soigne de ma beauté.
Et un petit nouveau qui nous a été amené par Zoé. C'est toujours un plaisir, des petits nouveaux, parce qu'on leur met la pression en leur faisant croire qu'on a des auditeurs, alors que la pression, on la boit après l'émission. Bienvenue à Simon.
Bonsoir, heureux d'être avec vous.
Radiocratie, le talk show cous humain, mais qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, donc, on va maintenant parler, dans cette première partie, des Français qui ne demandent pas d'aide sociale, alors qu'ils y auraient droit.
Formidable. Vous êtes formidable.
Eh ben, vaut mieux entendre ça que d'être sourd.
Alors, donc, les Français ne touchent pas forcément toutes les aides auxquelles ils ont droit, souvent parce qu'ils ne les demandent pas. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt par manque d'informations, parce que les démarches sont trop compliquées, notamment pour les foyers modestes? Boris, je te sens en fond, là.
Alors, oui. Alors, premièrement, ça s'appelle un non-recours au droit. Mmh. Et il en existe, enfin, quatre types. Le non-recours par non-connaissance, parce que la personne ne connaît pas l'offre demandée. Mmh. Par non-demande, bah, la personne ne demande pas l'offre. Parce que soit elle en a pas besoin, souvent elle en a pas besoin, ça arrive, hein, parce que ben, voilà, j'explique, l'offre peut être trop dérisoire par rapport aux besoins, ouais. Ou être beaucoup trop compliquée. Enfin, il y a plein de facteurs. Et il y a la non-réception, c'est-à-dire que la personne a demandé l'offre mais ne la touche pas. Coucou à tous ceux qui attendent les sous de la CAF. Mmh. Et ou par non-proposition, c'est-à-dire que la personne est suivie par les services sociaux, devrait prétendre à l'offre, mais personne lui a donné l'info, alors que c'est le boulot.
Donc là, c'est un défaut des services sociaux.
Pas toujours. Ça peut, enfin, ça peut être, enfin, une offre, enfin, une offre. Oui, une offre, ouais. Ça demande quand même, enfin, des services sociaux, ça demande quand même avoir un certain comportement donné. Par exemple, le ça s'appelle plus RMI,
RSA.
La RE. La location de retour à l'emploi demande de montrer qu'on cherche du travail. Ouais. Il y a des personnes qui sont tellement en méconfiance d'eux-mêmes, qui cherchent plus, qu'ils attendent plus. Donc, les services sociaux s'y proposent pas. C'est peut-être qu'il y a déjà des choses à faire avant de. Enfin voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est assez compliqué.
Les autres, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je suis d'accord avec Boris sur un truc, c'est à propos de cette confiance en soi et des démarches qui sont hyper compliquées quand même. Moi, c'est ce que j'avais noté aussi, qu'il y a un non-recours au droit à cause de la complexité des démarches. Et c'est vrai que c'est quand même un dédale. Enfin, l'administration, faut s'y retrouver. On ne propose pas forcément les bons trucs. Et en plus, dans le cadre, par exemple, de quand on cherche un emploi, bah, il y a quand même une culpabilisation des gens plus que vraiment de les aider ou de leur tendre la main. Enfin, t'as un encadrement qui est excessif, il faut toujours prouver que tu cherches du boulot, il faut toujours, et des fois t'as pas le droit à certaines aides parce que tu rentres pas dans ces cases, il y a des défauts comme ça où tu rentres pas forcément dans toutes les cases et...
Avec des politiques qui demandent à ce qu'on vérifie le compte des chômeurs, mais par contre regarder leur compte ou ce qu'ils font de l'argent public, pas du tout.
Les autres, les garçons?
Ben, c'est vrai qu'il y a une certaine complexité des documents à apporter, tout ça. Puis comme en plus il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi concernés, ainsi que les personnes âgées, parce qu'ils sont pas au courant des nouveaux projets. Il y en a qui sont sans cesse remis au goût du jour, donc ils savent pas, c'est toute l'information. Et des fois même il y en a qui se découragent à force du nombre de papiers à apporter.
Une part importante de la population, quand ils perdent leurs droits, quand ils arrivent à la fin de leurs droits, ne les redemandent pas parce que c'est trop compliqué.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais les autres?
Je crois qu'en tout cas dans ma génération, il y a une peur d'aller à Pôle emploi, et ne serait-ce que pour avoir les informations, il faut passer par Pôle emploi.
Bien sûr.
Pour ceux qui retournent à l'activité, par exemple, il y a une prime d'activité dont quasiment personne n'est au courant de comment on l'a, à quel montant, etc. Quand tu retrouves un emploi, tu penses plus aller à Pôle emploi parce que t'as autre chose à faire et que c'était déjà une corvée de le faire.
Et puis quand tu bosses employeur... en général, tu bosses quand Pôle emploi c'est ouvert.
Ouais, donc c'est déjà rien que pour ça, c'est un calvaire. Et du coup, vu que tu n'y penses plus, tu n'y demandes pas. Là, par exemple, j'avais un petit chiffre, c'est pour le RSA activité qui est plus au goût du jour, maintenant c'est la prime d'activité, c'était 68% de personnes qui étaient éligibles qui ne le demandaient pas.
Ouais.
Donc ça fait évidemment une perte de revenus sans le savoir, par inconscience.
Il y a un manque d'information, du coup, vous pensez, par rapport à ça?
Bah, clairement oui quand même. Enfin, c'est ce que disait Boris, mais au début, bah des fois t'es éligible sur certaines choses, certaines allocations, t'as même pas l'idée de demander parce que déjà il y a énormément de choses différentes que tu connais pas, parce que enfin moi perso, moi l'administration, ça fait quand même deux voire trois.
Bizarre, ça m'étonne pas.
Mais mais c'est ça, enfin t'y penses pas forcément, et si on te donne pas l'information, bah tu peux pas le savoir non plus. Enfin, c'est comme une recette de cuisine, si tu sais pas qu'il faut mettre du beurre et que c'est pas noté, bah ton truc il crame et puis c'est tout, quoi.
Les structures font des démarches de communication sur leur site, etc. Mais la plupart des gens qui ne sont pas suivis par les assistantes sociales ne sont pas au courant, parce que l'assistante sociale, c'est celle qui permet de donner les offres. Et avec tout ce côté de culpabilisation du pauvre, parce que c'est lui qui va être demandeur des aides, il n'y a pas forcément la démarche, parce qu'on n'a pas envie d'être un parasite, tout bêtement.
Et puis sans la culpabilisation, il y a la honte des fois, juste de se dire il faut y aller.
Oui.
Par rapport justement à cette culpabilisation, moi je rebondis sur quelque chose. Bah, j'ai trouvé justement en faisant les recherches pour l'émission, j'ai trouvé une émission de France Info qui parle justement du rapport des Français avec l'argent. Je trouvais ça plutôt à propos. Et c'est vrai qu'il y a une culpabilisation. Et en fait, c'est un philosophe qui a sorti un bouquin qui s'appelle La sagesse de l'argent. Donc c'est Pascal Bruckner, et qui raconte justement que il y a un tabou vis-à-vis de l'argent. Il y a une sorte de diabolisation. En même temps, il y a une fascination un peu malsaine avec l'argent, c'est qu'il y a cette idée qu'on devrait, enfin, l'argent ne fait pas le bonheur et que du coup on devrait vivre d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets, enfin, on devrait avoir cet état d'esprit, alors que l'argent, il est quand même important pour, c'est ce qu'il dit, il est important pour la liberté, enfin, pour pouvoir agir quand même pour la dignité de la personne. Et il disait, enfin, justement, qu'il y avait un rapport constant entre cette liberté, cette diabolisation, ce tabou, et ça joue aussi pour les aides. Enfin, t'as une diabolisation constante de la personne, une culpabilisation, qui fait que si elle a pas de boulot, si elle a pas d'aide, et même si elle a des aides, bah, c'est qu'elle en profite, en fait. Enfin, ce mot profiter, il est souvent mal utilisé, alors que justement, des fois, juste pour, on en parlait avec Simon, juste pour la dignité de la personne, ben des fois c'est pas mal de pouvoir juste aller se payer une bière ou sortir avec des potes pour boire un coup, enfin, ce qui n'est pas forcément possible, justement. Et
c'est vrai qu'en France on a quand même un problème avec l'argent, ça se fait pas par exemple de dire son salaire. Alors que tu vas aux États-Unis, ils ont aucun souci avec ça.
Et bah, justement, exactement, j'en discutais avec, bah, justement, mon parrain qui me disait, bah, le problème, c'est qu'en France, un self-made man, enfin, il est pas très, très bien vu. Un mec qui s'est construit tout seul, quelqu'un qui gagne énormément, bah, on n'en parle pas en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est quand même assez glorifié. Enfin, ils ont tout un état d'esprit autour de ça et ça joue aussi beaucoup.
T'as le côté, en France, il dit, ah ouais, mais lui, il a plein de pognon. C'est un côté péjoratif.
Oui.
Oui. Boris, tu voulais intervenir là-dessus?
Je voulais faire des gestes. Moi, je voulais avertir aussi que ça marche dans l'inverse. On a quand même un État qui donne le seuil de pauvreté à 900 euros, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dignement à moins de 900 euros, et le montant du RSA, il est à bien moins de 900 euros. Donc, il y a quand même une sorte de paradoxe dans ces aides.
Ouais, c'est vrai. Les autres?
Moi, je rejoins ce que tu dis, Boris. Enfin, c'est vrai que même on a cette idée de la dignité. La dignité, c'est énormément de choses quand même. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pouvoir avoir des loisirs. Ça peut être pouvoir manger, payer son loyer correctement, ne pas vivre dans un logement insalubre. Et c'est jamais suffisant, en fait. Enfin, déjà, soit on peut pas toucher ces allocations. Mais même quand on est étudiant, je prends l'exemple de la bourse. Est-ce qu'on peut attendre d'avoir reçu notre bourse pour commencer à vivre? On peut pas. Pourtant, on a besoin de cette bourse. Si on l'a. Et il y a même des personnes qui auraient besoin de cette bourse qui ne peuvent pas l'avoir parce que c'est basé sur le revenu des parents, par exemple. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qu'on n'a pas. Je me suis perdue.
Oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est que le système, le système de distribution des aides sociales en France, il est mal foutu.
Bah ouais, clairement.
Il est surtout engorgé parce qu'il y a, les CAF, les assurances maladie, toutes les structures qui sont censées s'occuper des gens, ils sont totalement débordés. Même Pôle Emploi, hein, vous lisez les trucs, c'est du travail à la chaîne, et on peut pas faire de l'humain, on travaille à la chaîne. Sauf que c'est beaucoup plus facile de comptabiliser des chiffres quand on veut être réélu que de travailler sur de l'humain.
Bien sûr. Oui, tu prends par exemple l'étudiant qui vient d'avoir son bac, qui va à la fac, qui doit changer de ville, par exemple, qui doit s'installer. Il attend 3 mois avant d'avoir ses aides si les parents pas, enfin c'est des allocs, ces allocs, comment on appelle ça, la CAF,
les APL,
merci. Et allocation pour le logement. Voilà. Et pendant 3 mois, comment il fait? Je pense qu'il y en a plein qui sont bien dans la merde. Mais il y a aussi des gens qui demandent pas parce que je connais des gens qui demandent pas, par exemple, une aide pour payer la cantine de leurs enfants, des choses comme ça, parce que pour eux, ça relève du défi de faire 3 photocopies de bulletin de salaire. C'est trop compliqué.
C'est compliqué, surtout que des fois, t'as des patrons qui la donnent en retard. Enfin, voilà. C'est une sacrée galère.
Et puis les gens qui travaillent, souvent, on leur apporte pas une aide sociale, un assistant social qui va les aider, parce que on dit ils travaillent, ils sont intégrés, ils savent faire, etc. Et pas forcément, je trouve.
C'est surtout qu'ils s'occupent pas des gens qui travaillent parce que c'est engorgé d'autrement.
Mais tu voulais dire autre chose, Boris.
Attendez, je me suis perdu. C'est pas grave, je vais faire.
T'as trop de notes, Boris.
J'ai trop de notes. Je vais faire sans les notes. Le problème, c'est qu'on vit avec un grand phénomène d'exclusion scolaire qui donne justement un problème de d'exclusion, enfin de
solitude.
Non, pas de solitude. Déficit d'éducation et de savoir, ce qui donne des problèmes de communication. Et après, quelqu'un qui a un déficit scolaire, qui doit exprimer, enfin qui doit trouver les mots, alors qu'il n'a pas pour exprimer ses besoins, c'est une vraie galère.
Ouais.
Donc on a des gros problèmes par rapport à ça, et on a des populations grandissantes parce que il y a des zones où les gens sont déscolarisés en masse et personne ne se pose de questions.
Et il y a l'inverse aussi. Si parfois le déficit à la maison sociale, et ou qui bossent dans un lycée, des fois j'ai des jeunes qui nous posent des questions alors que ça serait pas du tout à nous de régler ça, mais les parents savent pas, donc ils se tournent vers l'éducation nationale parce qu'ils savent que Zoé, tu voulais intervenir
juste par rapport à ce déficit justement dont tu parles. Moi, j'ai vu un truc comme ça qui est passé au JT sur la 2. C'est un camion en fait qui se déplace dans une région, et que je crois que c'est en Angleterre, et il se déplace dans toute une région pour justement aider les gens, et en fait les services sociaux viennent à eux et les aident à faire leur démarche vis-à-vis d'un ordinateur, tout ça pour les gens qui ont pas la démarche de tout de suite se déplacer. C'est peut-être plutôt en France, alors je sais plus.
Je sais plus où c'est, mais oui, j'ai entendu parler de ça effectivement. Boris, pour conclure.
Ouais. Alors pour conclure, je dirais que le problème du discours libéral, c'est qu'il il se focalise sur les fraudes aux prestations sociales, sauf qu'elles représentent 4 milliards d'euros. Ouais. Alors ça paraît énorme, mais quand on s'informe sur les demandes de recours au non-droit, on se trouve qu'il y a 2,4 milliards de non-recours au RSA, c'est-à-dire de personnes qui ne demandent pas le RSA. Je parle de milliards d'euros. Hein, et 4,7 milliards de prestations familiales et de logements. Donc en fait, avec le non-recours, on se retrouve avec un truc excédentaire. Et si on met à côté les 16 milliards de fraudes aux cotisations sociales dues aux employeurs, on l'a trouvé, le trou de la sécu, et les 60 milliards estimés d'évasion fiscale, dont un certain Dominique Tian, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, il a passé sa carrière politique à combattre les méchants pauvres.
Et, c'est marrant,
et aujourd'hui, il s'est fait choper par le fisc pour évasion fiscale. Alors, je vous dis tout de suite, le jugement est donné le 26 janvier et la condamnation requise est 12 ans de prison, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Comme Putain. Quoi, l'hypocrisie comme le crime ne paie pas.
Merci Boris. On va maintenant passer à notre rubrique que vous connaissez, Soyons cruels. Aujourd'hui, on va parler du Dakar et c'est moi qui m'y colle. Alors ce soir, pendant quelques secondes, quelques instants, dansons le tango. Lima, Pisco, San Juan de Marcona et Arequipa au Pérou. Désolé, je parle pas espagnol. La Paz, Uyuni, Tupiza en Bolivie, Salta, Belén, Fiambala, Chilecito, San Juan et Córdoba en Argentine. Ces villes ne vous disent peut-être rien, pourtant elles ont été traversées par les mêmes blaireaux ces deux dernières semaines. Alors, ce soir, je vais vous emmener dans la dernière ville citée, à Córdoba, une ville d'environ 1 300 000 habitants située en Argentine, grosso merdo à égale distance entre Asunción, la capitale du Paraguay, et Santiago du Chili. Pourquoi Córdoba ? Parce que c'est là qu'avant-hier, samedi, Carlos Sainz a confirmé son statut de maître, de dieu de l'automobile. Oui, pour certaines personnes, Carlos Sainz est un dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vient de gagner le Rallye Dakar. Alors, dansons le tango. Et moi, ce Dakar, ça m'énerve. Déjà parce que chaque mois de janvier, à peine terminé les fêtes et le nouvel an, les bonnes années, les meilleurs vœux, et la santé surtout, et toutes ces conneries entendues par des gens souriants qui n'en auraient strictement rien à battre si on crevait demain, les jours rallongent un peu. Enfin, beaucoup, même si on s'en rend pas trop compte. On repart dans la routine du quotidien pour une nouvelle année, on prend des résolutions à la con, et là, bam, ça nous tombe dessus. Dès qu'on allume la radio ou la télé, des kilomètres carrés de sable, des grosses bagnoles, des motos prises dans les dunes ou dans le vent. Bref, le Dakar, une sacrée course de beauf quand même. Mais c'est pas grave, dansons le tango. Alors, outre le fait que ça fait maintenant quelques années que le Dakar n'arrive plus à Dakar, c'est plein de mecs blindés de publicité pour de grandes multinationales polluantes ou éthiquement moyennes qui conduisent des voitures, des camions, des motos, tout autant polluants que les images qui me polluent les yeux et la tête. Il y a des moments, plutôt que d'allumer la téloche, j'aimerais bien être un poisson rouge caché dans une amphore creuse style Grèce antique, acheté dans l'animalerie d'à côté, fabriqué par les petits chinois exploités qui jouent à danser le tango. Parce que quand même, le Dakar est une course créée en 1978, ça fait 40 ans et c'est quand même un des sports qui cause le plus de morts, en tout cas par rapport au nombre de participants. Depuis 40 ans de pistes africaines et sud-américaines défoncées, de villages balayés, il y a quand même eu 73 morts, ce qui fait une moyenne de 2 morts par an. Donc 15 pilotes, ce qui fait quand même 58 personnes décédées n'ayant pas participé à la course. Des membres de la caravane, des automobilistes qui croisent la course en sens inverse, des spectateurs, des « entre guillemets autochtones » qui n'ont rien demandé. Alors je pourrais vous faire la vanne à la con que quand Thierry Sabine et Daniel Balavoine sont gouffrés en hélicoptère dans le désert pendant le Dakar 86 à l'époque, avec les restes de l'hélico, ils ont fait une machine agricole, parce qu'à l'avant Sabine, à l'arrière sa Balavoine. Ouais, pas terrible comme blague, hein. Déjà entendu tellement de fois surtout. Ça me redonne pas vraiment de sourire quand je tombe dans les médias sur ce Dakar à la con qui m'insupporte de plus en plus. Alors après, c'est pas grave, hein. C'est 58 morts qui n'ont rien demandé. Ils n'avaient pas demandé à ce que ce truc qui me fait penser à la colonisation, traverse les rues de leur petit bled ou de leur grande ville, traverse leurs dunes, leurs montagnes, leurs plaines, leur territoire, leur pays. Ils n'ont rien demandé, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de 58 morts en 40 ans quand on voit ce que cette course rapporte en recettes publicitaires, en droits télé, en fric tous azimuts. Alors dansons le tango. Quand il y a du pognon, les vies humaines ont tout de suite un tout petit peu moins de valeur quand même. C'est le sujet qui va nous intéresser juste après dans la suite de cette émission d'ailleurs. D'ailleurs, quid des écoles, des hôpitaux, des programmes de lutte contre le paludisme, le sida, bref, toutes ces grandes actions qui devaient être mises en place grâce au Dakar, grâce à tout cet argent, toutes ces publicités, ça doit rapporter des milliards, non ? Maintenant, imaginez une course organisée par des Africains ou des Sud-Américains qui partiraient d'Espagne et qui se rendraient en Suède, traversant la France, la Belgique, l'Allemagne, bousillant les paysages, les routes, fauchant ici ou là quelques villageois qui sortent de chez eux pour aller chercher le pain, promener le chien. Ça nous plairait pas forcément. Alors oui, le Dakar est parti il y a 2 semaines de Lima au Pérou. Vous savez, Lima, cette capitale du Pérou, cette ville construite de toutes pièces par les Espagnols après avoir trucidé les Incas, qui avaient eux fait pour Machu Picchu leur capitale. On voit ce que ça fait le colonialisme, ça se remplace souvent le beau par la merde. Bon tenez, on parle de colonialisme, on en revient au Dakar qui est arrivé en Córdoba en Argentine. Alors le dieu, le maître, Carlos Sainz, un dieu ce mec ? Bon d'accord, il a gagné cette putain de course contre son coéquipier Stéphane Peterhansel qu'il avait pourtant gagné 13 fois. Tout le monde parle de lui, il est trop fort, bravo, c'est formidable. Mais au prix de quoi ? Au prix de quoi cette course fait gagner des grands champions ? J'en suis comme ce mec-là. J'ai rien contre lui, à ce mec, mais le fait, c'est qu'il participe à l'une des épreuves sportives les plus meurtrières au monde. Mais il est trop fort, alors les vies humaines, finalement, dansons le tango. Cette indécente course de la honte se carre complètement des différences culturelles, ne respecte rien, ni l'environnement, ni les hommes, ni même la mort. Enfin, comme disait Renaud dans sa chanson 500 connards sur la ligne de départ, combien d'années encore ces bœufs sponsorisés prendront le sol africain pour une cour de récré? Bon, la cour de récré s'est déplacée un peu plus au sud, mais le jeu n'a pas changé, la même marotte, la même marelle, gagnée à tout prix, même le plus funeste. Alors, dansons le tango.
J'ai vendu mon bateau, ici il n'y a plus de poisson. Et j'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller, où aller, où aller, je ne sais pas où aller. Dormi sans étoiles, ici le ciel est noir. Et j'ai volé du pain, la terre était trop sèche. C'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange. C'est la faute à qui si je suis hors la loi. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas. Sans boussole et les cris de ma mère par-dessus mon épaule. Je prie mon élan une fois, dix fois, sauter par-dessus les cris comme papa. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas où. Pas son bras sur du tombe. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille. Mais elles ont fait tomber toute ma famille. Une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan on m'attendait la mer, mais elle portait des gants. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas où.
C'était Tiken Jah Fakoly avec Où aller où.
Radio Primitive.
Ah, c'est quoi ce beat?
Voilà. C'était Tiken Jah Fakoly avec Où aller où. Vous êtes toujours dans Radio Gracie avec Simon, Zoé, Alexis et Boris en régie. Et normalement, on a Fabien au téléphone. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Tu nous entends bien, c'est bon?
Oui, j'entends
bien. Ok, bon bah parfait. Bon, je te remercie d'être avec nous au téléphone. Donc tu fais partie du collectif 51 de soutien aux exilés, c'est bien ça?
Alors il a changé de nom, puisque les personnes et les pratiques ont un peu changé, oui. C'est le collectif Solidarité Réfugiés 51.
D'accord, oui j'ai mis le 51 au début. C'est un collectif qui apporte un soutien logistique et moral aux exilés, qui vivaient dans le parc Saint-Jean-Perse à Reims, mais je crois savoir qu'ils ont été relogés.
Ils étaient au parc Saint-Jean-Perse à Reims depuis le mois de juin, lorsqu'ils ont été, ils ont été refoulés du parc, enfin de la plateforme devant le CADA, ils sont allés au parc Saint-Jean-Perse, puis au bout de 3 mois, ils sont allés sur le campus, et puis ils ont été relégués sur ceux qui étaient sur le campus, sauf qu'un certain nombre est revenu sur le parc Saint-Jean-Perse, et nous avons réussi, par l'intervention gracieuse d'un propriétaire foncier, d'avoir deux logements.
D'accord. Donc là, ils sont tous à l'abri, en fait, j'ai envie
de dire. Donc, ils sont tous sous des toits. Ouais,
déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et ma première question, elle est simple. Comment ils vont, du coup? Mieux, je suppose?
Alors, ils vont mieux parce qu'ils sont au chaud, parce qu'ils ont des repas. Alors, ils avaient des repas aussi, mais là, ils ont des repas. Et en plus, ils ont une cuisinière, donc ils peuvent manger. Ils ont des chambres, pas que des chambres individuelles. Ouais. Mais évidemment, ça va mieux.
D'accord.
Ils vont beaucoup mieux. Alors, la vie en communauté est jamais simple, mais ça, c'est partout. Hein.
Oui.
Mais ils vont beaucoup, beaucoup mieux. Bon, ouais. Sachant qu'ils sont pour tous sont dans la certitude de leur avenir, de leur avenir proche.
D'accord. Alors, juste avant, quand tu es au téléphone, on parlait justement des aides sociales. Alors, on fait une différence en général entre les migrants, les demandeurs d'asile, les exilés. Le terme migrant est un terme plutôt péjoratif qui regroupe toutes les personnes qui migrent d'un pays vers un autre, hein, pour des raisons politiques et ou économiques, parce que souvent c'est la même. Et les demandeurs d'asile sont des personnes qui sont en France, et pour ce qui nous occupe ce soir, et qui demandent l'asile à la France. Alors, ma question, elle est simple. À partir de quel moment les réfugiés peuvent obtenir une aide de l'État, sous quelles conditions et de quel montant, en fait?
Ils peuvent obtenir une aide, c'est-à-dire qu'il faut une aide qui s'appelle allocation pour demandeurs d'asile. Alors, avant, il y avait allocation mensuelle de subsistance et allocation temporaire d'attente qui ont été fusionnées. Il y a un certain nombre de conditions pour ça. Il faut justifier de ressources mensuelles inférieures au RSA.
Oui.
Il faut accepter les conditions d'hébergement.
Oui.
Que, voilà, quand ils demandent des hébergements d'urgence, lorsqu'ils ont la chance d'en avoir une, le CADA ou l'OFI leur offre un hébergement, et puis il faut avoir une attestation de demande d'asile.
D'accord. Le CADA,
à demander l'asile.
D'accord, une attestation de... Et le CADA, tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît, je sais.
Le CADA, c'est le centre d'aide pour les demandeurs d'asile.
D'accord,
c'est
oui, c'est ça.
C'est une structure qui s'occupe exclusivement des personnes qui demandent l'asile et donc qui peut les orienter vers...
D'accord.
Vers des structures pour...
Donc c'est national, ça?
Et c'est national, ouais, avec des déclinaisons locales. Et donc la demande, l'aide à laquelle ils ont droit, c'est 6,80€ par jour, par personne, pour ceux qui sont hébergés.
6,80€ par jour?
Pour ceux qui sont déjà hébergés,
d'accord.
C'est-à-dire 100€, l'équivalent de 200€ par mois. Pour ceux qui ne sont pas hébergés, c'est 12,20€.
D'accord.
Ça fait un peu moins, ça fait 360, 370.
Et officiellement, est-ce que cette aide doit leur servir à quelque chose en particulier ou pas?
Bah, dans la mesure où ils ne sont pas autorisés à travailler avant 9 mois après leur demande, parce qu'il y a un risque qu'au bout de 9 mois, les choses n'aient pas évoluées, ils n'ont pas le droit de travailler. Et donc, pour survivre, ils ont un minimum.
Voilà,
qui est en dessous du RSA.
Qui est vraiment un,
c'est vraiment très, très minimum.
Un minimum de chez minimum. Ouais.
Sachant que pour faire la demande d'asile, ça peut prendre plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous. La loi dit 3 jours au plus tard, ou plus 10 jours, mais en général, c'est sur 2 mois, 3 mois.
Oui, puis on sait bien que l'État français est quand même hors la loi sur pas mal de choses à ce niveau-là.
Oui.
Moi, je voulais te demander, parce que tu étais intervenu dans une de nos émissions à l'automne, là, où je t'avais interviewé. Est-ce qu'un demandeur d'asile qui est dubliné, alors je rappelle ce que ça veut dire, c'est un réfugié en fait doit demander obligatoirement l'asile au pays dans lequel il a été enregistré pour la première fois. Donc par exemple un réfugié syrien qui a été enregistré pour la première fois en Grèce, s'il vit aujourd'hui en France, il doit quand même demander l'asile politique à la Grèce, c'est bien ça?
Oui.
Ouais. Et donc un demandeur d'asile qui a fait sa demande d'asile à la Grèce par exemple, admettons qu'elle a été acceptée, s'il vit toujours en France, est-ce qu'il peut quand même prétendre à une aide?
Alors ça, je saurais
c'est
pas trop te dire, parce que c'est-à-dire que la demande d'asile, il doit la faire dans le pays, comme tu viens de le dire, dans le pays dans lequel il est arrivé. Donc, s'il a une aide, c'est une aide qui vient de l'État duquel il est arrivé.
D'accord.
Et pas si, par exemple, il a demandé s'il a fait une demande d'asile en Grèce, il doit être en Grèce. Donc après, il a fui. Mais s'il a fui, la demande d'asile ne peut pas être étudiée.
D'accord.
Donc, l'aide, elle ne peut être offerte que par l'État qui étudie sa demande d'asile.
D'accord. Zoé, une question pour toi.
Oui, alors moi j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la culpabilisation vis-à-vis des chômeurs, enfin, qu'ils n'ont pas une très bonne presse, entre guillemets, mais c'est vrai qu'un demandeur d'asile, il est souvent stigmatisé dans les médias, etc. Et dans la tête des gens, ça doit être compliqué pour lui aussi de demander des aides. Est-ce qu'il y a des abus ou est-ce qu'il y a des refus, justement parce que c'est un demandeur d'asile? Comment ça se passe quand il les demande du point de vue vraiment humain? Enfin, c'était ma question du coup.
Bah, quand il les demande, là, il n'y a pas de problème pour les obtenir. Il les a, parce que c'est pas une grosse somme, il les a. Même, pour éviter les amalgames, j'ai entendu ici et là parfois que l'État pouvait offrir une carte bancaire. C'est pas le cas. Sauf dans les cas très rares pour lesquels les demandeurs ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire pour tout un tas de raisons.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils n'ont pas forcément tous un compte bancaire, ces demandeurs d'asile. Donc, quand ils n'ont pas de compte bancaire, comment ils sont distribués, ces aides? On a perdu Fabien. C'est pas grave, on va le rappeler. Phébis, Boris, on va le rappeler.
Ouais, attends, 30 secondes, je vais m'occuper du téléphone.
Oui, bien sûr, occupe-toi du téléphone, Phébis. Donc, alors sinon, c'est pas grave, on a quand même des choses à dire, même si on n'a pas Fabien pour l'instant. Justement, là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper faible ce qui touche.
Bah, 6,80€, c'est quand même pas énorme pour pouvoir vivre, enfin... En partant du principe que tout le monde a vraiment le droit à ces 6,80€. Enfin,
on a récupéré Fabien. Je l'envoie.
Voilà, Fabien, tu es là ?
Oui. Oui, je suis désolé, j'ai été coupé. Qu'est-ce que je disais ? Je parlais de compte bancaire. Oui. Tous ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire. C'est très compliqué d'ouvrir un compte bancaire. Donc la règle, c'est que ils ont tous droit à demander une carte bancaire pour laquelle ils ont droit de retirer 3 fois par mois.
D'accord.
Sur laquelle ils reçoivent leur allocation demandeur d'asile.
3 fois par mois.
Et c'est bien entendu pas illimité, c'est par rapport à leurs allocations.
Oui, ils reçoivent leurs allocations sur le compte et sur ce compte. Ils peuvent utiliser une carte pour avoir accès à cette allocation et uniquement.
Mais c'est pareil, je trouve que ça doit être vachement problématique parce que 3 fois par mois, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir besoin d'acheter quelque chose en urgence.
Ouais. Bah voilà, exactement. Donc, ouais, j'imagine qu'ils s'arrangent pour retirer le plus possible à un moment, ce qui les oblige à évidemment à se déplacer avec du liquide, ce qui est pas toujours évident, surtout dans les situations dans lesquelles ils vivent, comme beaucoup ne sont pas hébergés. Et quand même, ils sont hébergés, c'est souvent dans des foyers. Mais voilà, ça reste compliqué.
J'ai une petite question, toi qui es au contact des demandeurs d'asile. Est-ce que cette aide leur permet de vivre dignement ?
Dignement, non. Dignement, non. Bah, c'est difficile de vivre dignement avec cette somme-là, mais c'est des personnes qui sont dans des situations politiques, matérielles ou économiques tellement dramatiques que bah ça leur permet de se payer un café de temps en temps. Et c'est pas rien, voilà. Ça leur permet de, en économisant un tout petit peu, de pouvoir s'acheter un paquet de cigarettes pour ceux qui fument, pour pouvoir se déplacer parce que les transports en commun ne sont pas financés par l'État. Et donc pour acheter un ticket de tram ou un ticket de bus. Donc c'est très dur à vivre, mais il faut remettre dans leur situation personnelle qui est dramatique, parce qu'ils ont fui un pays, persécution ou guerre ou tout un tas de raisons. Et donc là, le fait d'avoir une toute petite somme, c'est toujours ça, c'est dérisoire, c'est rien. Faut dire que c'est dérisoire, parce que 300 euros par mois, c'est rien du tout. Voilà, c'est pas avec ça qu'on va causer le déficit, évidemment. Et c'est bien moins que ce que peuvent recevoir des personnes françaises en situation de détresse. Voilà, c'est juste pour... Là, je dis ça pour faire attention à la comparaison qui est parfois faite entre les SDF et les migrants. Alors voilà, les migrants sont moins bien lotis que les SDF, bien sûr. De ce point de vue-là.
Ouais, ce qui est quand même fou, parce que quand on voit comment les SDF sont lotis en France...
Absolument, ouais.
Les autres, des questions encore pour Fabien ? Bon, Boris, vas-y.
Oui, une petite. Donc, l'État est obligé d'héberger les demandeurs d'asile, mais dans beaucoup de situations, ils ne sont pas hébergés. Est-ce que c'est une exception de Reims par rapport à un quiproquo, ou alors c'est généralisé à toute la France ?
C'est généralisé à toute la France, parce qu'effectivement, d'après la loi, toute personne en situation de détresse est tenue d'avoir droit à un hébergement. C'est censé être le cas. Mais la loi a précisé aussi que des fois, il n'y a pas d'hébergement. Parce qu'il se trouve que... Est-ce que c'est une volonté ou non de l'État, je ne sais pas. Et je me souviens de l'occupation du campus qu'on a fait au mois de septembre, qui a donné lieu à l'hébergement tout de suite, ce qui montre que faire la pression sur l'État peut lui permettre d'agir un peu plus vite. Mais en tout cas, ils sont censés être hébergés. Voilà. Et donc, le fait qu'ils ne le soient pas est problématique au regard de la loi.
Oui, l'État, en fait, est hors la loi sur cette question-là. En fait.
Voilà, c'est ça que je voulais dire, ouais.
Alors, en parlant d'État hors la loi, est-ce que tu en as entendu parler du délit de solidarité ? Et deuxième question, est-ce que tu as peur d'en être victime ?
Alors, autour de moi, autour de nous à Reims, c'est pas quelque chose qui nous a touché, mais je suis de très près, notamment Cédric Héroux, entre autres.
C'était celui qui était sur Menton, lui, je crois.
Ouais, c'est ça, il est à la Vallée de la Roya et il a fait 26 heures de garde à vous ce week-end.
Ah, quand même.
Que ce qui se passe pour Cédric Héroux, c'est qu'il habite à la frontière France-Italie, et pour aller de chez lui, pour aller se déplacer, pour être chez lui en ville, il est obligé de traverser la frontière. Et en traversant la frontière, il s'arrive qu'il rencontre des migrants. rencontre des réfugiés qui fuient leur pays et les prend parfois en voiture. Et c'est interdit par la loi de prendre en voiture des personnes qui sont sans papier. Et il s'est fait arrêter plusieurs reprises là-dessus. Lui, par exemple, il reçoit des dizaines de personnes dans sa ferme. Régulièrement, il a été en procès à plusieurs reprises. Il avait été en garde à vue la semaine dernière. Donc, alors ici précisément, on n'a pas eu affaire à ça. Voilà, c'est pas exclu que ça arrive un jour, mais on n'est pas non plus dans des conditions où on a des centaines de personnes. On n'est pas un lieu de frontière où il y a beaucoup de passages. On n'est peut-être pas la zone la plus délicate pour ça. Après, il n'a rien exclu que si la loi se durcit encore, comme c'est prévu, avec un projet de loi qui va être discuté le printemps prochain, rien n'exclu que ça devienne plus dur.
Parce qu'il est écrit dans les textes de loi qu'on n'a pas le droit de prendre dans sa voiture quelqu'un qui n'a pas de papier.
Alors, il me semble que c'est plus de la jurisprudence, une interprétation de la loi, savoir que, voilà, une personne qui est sans papier, si on héberge une personne sans papier, ça veut dire qu'on est complice.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque ?
Bah, au pire, on peut risquer de la prison.
Ah, quand même.
Ouais, c'était... Voilà, un autre, je crois qu'il s'appelle Menoni, je suis pas sûr de son nom, je voudrais pas l'écorcher, a été condamné à la prison avec sursis.
Ah, la vache.
Il en appelle.
C'est quand même
pour délit de solidarité.
C'est quand même fou. Ouais. Les autres, des questions pour Fabien ? Mais écoute, Fabien, je te remercie beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous. C'est super sympa.
Ben, merci à vous, j'espère avoir éclairé un petit peu.
Tout à fait. Et puis à bientôt, et puis bonne soirée à toi.
À bientôt, ouais, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc voilà, c'était Fabien au téléphone, donc, qui, je le rappelle, donc, fait partie du collectif de soutien aux réfugiés 51. Et on est quand même content qu'ils étaient relogés, ces demandeurs d'asile. Ils étaient,
enfin, ça a duré.
Ils étaient à peu près 25 et ils avaient notamment des petits en bas âge. Il y en a un qui était hospitalisé assez longtemps parce que forcément, quand t'as un gamin de 1 an qui dort dehors de ce temps-là, merci quoi. Donc, ouais. Ok, très bien, on va passer à la suite. Et la suite, c'est la rubrique « Laissons les mots ». Aujourd'hui, c'est Zoé qui s'y colle.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Et Zoé, tu vas nous lire un extrait de « La première gorgée de bière », un livre de Philippe Delerme qui est paru chez Gallimard.
En fait, tu fais tout mon travail, j'avais fait des recherches, mais
ah,
vas-y,
merde,
balance
bah, vas-y,
tout.
Alors, vas-y,
qui est sorti
vas-y,
en 97, vas-y. Chez Gallimard, qui s'appelle « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, s'il te plaît, Étienne ». Et je vais lire le passage qui s'appelle « Plonger dans les kaléidoscopes ».
Allons-y.
Donc, « Plonger dans les kaléidoscopes ». On plonge dans cette chambre japonaise de miroir, on découvre les cloisons secrètes, on goûte la lumière emprisonnée dans l'étouffant cylindre de carton. Théâtre d'ombre du mystère, coulisses nues du jeu de la lumière, paroi de glace sombre. C'est là que le miracle se prépare, dans l'équivoque cruauté des images multipliées. Au deux bouts du cylindre, pas grand-chose. D'un côté, le petit œilleton niaisement évident du voyeur. De l'autre, entre deux cercles opaques, les cristaux de couleur, vert peint d'un ton vif, atténués par le brouillard de la distance et l'idée de poussière. En bas, le spectacle est tout plat. En haut, le regard froid. Mais quelque chose se prépare entre les deux. Dans le cachet, le sombre, le fermé, dans ce tube silice recouvert d'une mince couche de papier glacé, si anonyme, de mauvais goût souvent, avec des arabesques entrelacées. On regarde. Dedans, les joyaux bleus, canards, mauve anciens, mauve anciens, orange lourd, se fractionnent dans une aqueuse fluidité. Palais des glaces de l'Orient, harem des banquises, cristal de neige du sultan. Voyage unique, chaque fois recommencé. Voyage de turquoise au bord des pierreries du Nord, voyage de grenade aux larges parfumées des golfes chauds. Des pays s'inventent, pays sans nom, qu'aucune carte ne saurait retrouver. On tourne à peine le cylindre, on est ailleurs. Plus loin, derrière soi, le pays chaud et froid se disloque déjà, avec un petit bruit douloureux de brisure. Qu'importe ce qu'on abandonne, quelques cristaux de verre peint se recommencent et inventent le pays nouveau. On attend une image, et c'est presque celle qui vient, mais jamais tout à fait. La petite différence fait tout le prix de ce voyage et son vertige, parfois presque son désespoir. On ne possédera jamais le pays des cristaux qui bougent. Cette mosaïque de ciel ne reviendra pas. Vert angélique et rouge de velours théâtre, elle a la solennité géométrique des jardins du Louvre et l'oppressante intimité d'une maison chinoise. plafond, mur au plancher, c'est bien une image de la Terre, mais flottant dans la pesanteur d'un espace éclaté. Il faut rester là, s'abîmer longuement. Si l'on pose le cylindre, le geste le plus doux suffit à bouleverser le continent. Un souffle devient cyclone, le palais s'envole. Dans une chambre noire, le mystère réfléchit. Tout se perd et tout se confond. Tout est léger, tout est fragile, on ne possède rien. Tout juste sans bouger quelques secondes de beauté, une patience ronde sans désir. Un peu de bonheur sage passe, on le retient entre le pouce et le majeur de ses deux mains. Il faut toucher à peine.
Merci Zoé. Donc c'était le passage du kaléidoscope de la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Et maintenant, Boris, tu nous as fait tomber en enfance. Hein. Boris, on passe au blind test. Eh oui, pour le jingle du blind test, là, cette fois, j'ai mis Zombie des Cranberries, que Dolores O'Riordan, qui est décédée la semaine dernière. Et j'ai oublié de dire, mais le tapis son, quand Zoé lisait, c'était Shape of My Heart de Sting, qui était la BO de l'excellent film de Luc Besson, Léon. Elle est la principale concurrente de Zoé au blind test, autant vous dire qu'il y a du niveau. Elle nous a rejoint, voici Julie, bonsoir.
Bonsoir.
Et Julie, quand même, je suis obligée de le dire, elle est arrivée, elle a écouté le micro pour savoir si elle entendait.
Je te le pardonnerai jamais.
Oh, pauvre petite. Et donc, alors, le blind test, je vous rappelle que pour le blind test, je veux pas le titre, je veux l'interprète. Et aujourd'hui, un blind test autour du thème de l'argent, vu qu'on a parlé d'argent. Un blind test autour du thème de l'argent. Alors attention, premier extrait, musique.
Téléphone.
Je crois que c'est Zoé.
Waouh.
Waouh. Ah bah elle est forte, hein, Zoé.
Je l'attendais celle-là.
Sur l'argent en même temps. Je pouvais pas ne pas la mettre.
Logique.
C'est con, Boris, t'avais failli trouver.
J'ai trouvé, oui. Mais pas après Zoé.
Alors, téléphone, argent trop cher, bien joué Zoé, extrait suivant, musique. Simon.
Brassens.
Brassens, Boris.
Ah, punaise, j'ai pas osé le dire.
Faut oser, faut tenter.
J'avais oublié le mot, flûte.
Et c'est la fille à 100 sous. Je vous laisse. Du temps que je vivais dans le troisième dessous, ivrogne, immonde, infâme. Voilà, quand ça chante, forcément. Extrait suivant, musique.
Souchon.
Souchon, Julie. Zoé est dégoûtée parce qu'elle aime bien Souchon.
Je suis sûr qu'elle l'avait en plus.
Oh bah oui.
Presque.
Full sentimental.
En fait, c'est un test de rapidité.
Bah quand il y a Zoé qui est là, oui. Allez, c'était donc Full Sentimental de Souchon. Un point pour Julie. Extrait suivant, musique.
Abba.
Ah oui. Abba, Zoé. C'est toi, Zoé, qui a dit.
Oui.
Money, money, money. Dans les années 80. Ouais, les gars.
Vraiment la ramasse. Ouais.
Simon et Alexis sont toujours avec nous. Hein.
Je déteste cette chanson vraiment.
Eh ben allez, on coupe. Extrait suivant, musique. Vous connaissez. Pas la chanson, mais le mec, vous le connaissez.
Un joyeux brouhaha, un chaleureux
Benabar.
Chahut.
Benabar, Zoé. Nous retient autour d'une table. Elle est en train de vous torcher, les gars.
On a l'habitude, hein, t'inquiète pas.
Mais arrêtez, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
J'ai gagné deux blind tests depuis que j'ai commencé.
Les deux derniers.
Déjà, t'es plus que nous.
C'est la semaine dernière qui était pas évident. Enfin, il y a 15 jours qui était pas évident. Et le jour de ton anniversaire.
On peut dire qu'elle a raflé tous les blind tests de l'année. Hein.
Bah, c'est clair, parce que c'est que le deuxième. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots. Donc le titre, c'est La Petite Monnaie de Benabar. Allez, attention, extrait suivant, musique.
Michael Jackson.
Michael Jackson, bien sûr. Celui-là s'appelle Money, tout simplement. Vous trouvez vite aujourd'hui. faudra lui en mettre plus. Boris danse derrière la vitre de la régie.
Toujours.
Allez, donc, c'est Julie qui a trouvé Michael Jackson. Mooney, bien joué. Extrait suivant, musique. Alexis.
Pink Floyd.
Pink Floyd, Simon. Bien joué. Simon qui marque son premier point dans Radiocratie. Yes.
Bien joué.
Mooney et Pink Floyd. J'adore Pink Floyd.
Yes.
J'ai galéré pour trouver les musiques sur ce thème-là. C'est un sujet un peu tabou. On parlait de tiroir caisse. Allez, bien joué Simon, les Pink Floyd, Mooney, extrait suivant, musique. C'est de plus en plus difficile évidemment. Et là vous connaissez.
Goldman.
Goldman, Julie.
Le chose.
Pourquoi tu me regardes avec cette terre?
Non, parce que je vois que je suis en train de perdre. Je crève
de ce. Non, t'as 3 et Julie a 3 aussi. Allez, attention. Bien joué, Julie. Extrait suivant. Musique. Boris est prêt à le sortir. Il se souvient plus du nom.
C'est Bachou.
Qu'est-ce qu'a dit Bachou?
C'est Bachou, il me semble.
Oui. Simon, bien joué. Bachou,
on connaît ça. Par
contre, c'est fait bâcher par Simon.
Hein? La petite entreprise Bachou. Qu'est-ce que ça fait dire Bachou? Mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile. Et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse. Bien joué. Alors, donc, je refais un petit rappel des scores. Julie 3, Zoé 3, Simon 2, Boris 1. Alexis, t'es là?
Ouais, je crois que le micro il marche pas bien.
Je peux le
t'es à côté
si
de
veux.
Moi, je t'entendrai. Allez, extrait suivant, Boris. Ouais, alors.
Alice Cooper.
Alice Cooper, Boris. Et j'en profite pour rappeler que la semaine prochaine, Boris et Zoé vont faire une émission musicale sur Alice Cooper. Et c'est Alice Cooper, Million Dollar Baby.
J'étais pas sûr d'avoir reconnu la voix.
Ah voilà, fallait que ce soit un de vous deux qui trouvait. J'en fais une sur Alice Cooper la semaine prochaine. C'est sûr.
Et du coup, on peut pas la mettre celle-là.
Oui, si.
Un petit clin d'œil au blind test.
Bah voilà. Allez, bien joué, Boris. Et 2 points dans un bon blind test, Boris. Est-ce que ça t'est déjà arrivé cette saison?
Bah, non, mais à chaque fois, tu mets plus de gens et là, le bouton est enclenché. Donc,
voilà,
je peux répondre
là,
du tac au tac.
C'est vrai que c'est plus facile. Allez, extrait suivant. Je crois que vous connaissez.
Ray Charles.
Non, c'est pas Ray Charles. Non,
non, non,
j'essaye.
Hein.
Temptations.
Très bien, hein.
Temptations. Non. Otis Redding ?
Non, c'est pas un mec qui chante.
C'est pas un mec qui chante ?
Ouais.
C'est une femme ?
Oui. C'est une femme qui chante.
Nina Simone.
C'est pas Aretha Franklin ?
Qui a dit Nina Simone ? Alexis, ouais, ouais.
Maintenant, tu
Et
peux
pas
plus
pas des moindres. Pas des moindres. Bien joué.
Ah, Nina Simone.
Je sais pas la reconnaître du tout.
Witch Girl, le titre. C'est pour ça que ça a un lien avec l'argent. Attention, 12e extrait déjà. Musique.
suis releveur d'appareils automatiques. À toutes les heures, j'ai des pièces métalliques.
Je les entends qui sonnent, écoutez-les sonner.
Quand elles s'entrechoquent, c'est moi qui suis choqué. Je dois vous avouer.
Je vois d'autres de ses chansons, mais.
Tant de monnaie que vraiment cela m'exaspère.
Celle-là, c'est pas la plus cool.
Non, c'est pas Bourrisien. C'est pas traîné.
C'est pas traîné.
Léo Ferré.
C'est pas Léo Ferré. Non, c'est quelqu'un qui est encore vivant.
Monnaie, dit le commerçant qui a le sourire. Tant de monnaie,
Aznavour. Vous avez cassé votre tirelire. Bien joué. Tant de monnaie,
et je ne sais pas quoi lui dire. Avouez. Chez moi.
Bien joué, Alexis. Et c'est de plus en plus difficile. Extrait suivant. Musique.
Spéciale dédicace à tous les rappeurs de la terre. Comprennent qui doit ou qui peut. À tout cela je dis, à tout cela je dis. Je ne suis sur terre que pour un court instant, mais je vendrai
Mickey
ma mère
3D.
Pour gagner de l'argent. Je
on connaît la voix.
Dionysos.
Non, c'est pas Dionysos.
Facile à percer, ce qui est difficile, c'est que je ne suis pas le seul à profiter du rap.
Pas Benabar.
Non.
Quand tous les batteurs tentent aux émissions pourries, au Téléthon, au Top 50, à Cinémorty.
C'est pas des magots.
Non, c'est pas des magots.
C'est un groupe.
Oui, c'est un groupe.
C'est pas les Schunkel.
Non, c'est pas les Schunkel.
Les œuvres de Barbarie.
Non, c'est pas les œuvres.
La Ruquetana.
Non, c'est pas la Ruquette.
Moi, je serai là.
Non. Il n'y a pas de loi quand on veut garder. Rapproche. Hein.
Babylon Circus.
Non, c'est pas Babylon. Je suis rappeur dans l'âme,
mais je dois t'avouer que si. Il manque l'accent canadien, donc c'est pas les Cowboys Fringants.
Non, c'est pas les Cowboys. Moyen de s'arranger. Je ferai tout pour. Je vais vous le dire.
Trio.
Non, c'est pas Trio.
Les initiales.
Je peux pas dire les initiales.
Les VRP.
Les VRP, Zoé. Ah, je vous ai à peine aidé, hein. Avec, je peux pas te dire les initiales. Je suis le meilleur. VRP. Tout pour le fric, le titre. Bien joué, Zoé, qui repasse en tête avec 4 points. Allez, attention, en TP, ultime extrait. Musique.
Lana Del Rey?
Non.
Tina Turner?
Non, pas du tout. Zoé, je sais que t'aimes. Je crois que t'aimes bien.
Kate Moss?
Non, c'est pas Kate Moss.
C'est Björk?
Non.
No Doubt.
C'est un groupe.
Bah, No Doubt, c'est un groupe.
Oui, non, mais je vous aide. Bon. Voilà. De rock.
Garbage, non?
Non, je vais pas vous le dire, c'était Radiohead.
Radiohead.
Bah, forcément, c'est un mec qui chante, normalement.
Dollars and Cents, ouais. Ah, t'es pas facile, alors. Avant-dernier extrait, attention, unique. Dire Straits, Boris, bien joué. Il l'a piqué à Alexis, celle-là. Il était pas loin, sur le fil. Dire Straits, c'est Money for Nothing.
Ça y est, je l'ai.
Merci Simon.
C'est dommage.
Un extrait quand même. Là, ça part. Qu'est-ce que c'était bien Radio d'ailleurs Straight quand même.
Bah maintenant oui, je reconnais.
Ah bah oui.
Boris est à danse.
Allez à fond là Boris. Ah bah attends Boris, tu mets du métal, tu kiffes. Alors attention, le dernier extrait. Dernier extrait, c'est le plus difficile normalement. Extrait dernier extrait, musique.
Flashdance.
Non.
On la connaît tous, hein, celle-là.
Ah bah oui.
Bonnie.
Hein?
Bonnie.
Bonnie Taylor.
Ouais.
Non.
Pourquoi tu voyais une autre Bonnie?
Bah non, c'est pour ça. Ah, c'est difficile, les gars.
T'as pas les initiales?
Ah, tu me gonfles avec les initiales, tu vois, tu veux pas que je te donne le nom, c'est...
Bah ouais, mais ça aide, les initiales.
L'initiale du prénom, c'est un D.
Ça pourrait tous nous aider, effectivement.
T'es bien. Donna Summer.
Donna Summer, oh. Zoé qui gagne ce blind test. Bien joué.
Bravo.
Tu vois, ça sert les initiales.
C'est She Works Hard, Hard for the Money. La liste pour
bravo,
Zoé.
Bravo.
Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Zoé, Simon, Alexis, Julie, merci à Boris pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. Encore une fois, une heure. En ce lundi, en fin de journée. La semaine prochaine, donc, on se retrouve pour une émission musicale sur Alice Cooper avec Zoé et Boris. Je rappelle que si vous voulez nous suivre, c'est la page Facebook qui s'appelle Radiocratie, le mail qui s'appelle radiocratie@gmail.com, la chaîne YouTube Dailymotion, c'est Radiocratie, YouTube aussi d'ailleurs. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, a Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song.